Chapitre 20. Dans la maison. Les hommes cherchent la lumière dans un jardin fragile où frissonnent les couleurs. Jean Tardieu. Une lune bleue nuit pesait sur le ciel et défiait les nuages. Il faisait un froid polaire. Dans l'habitacle de la Shelby, le chauffage ne soufflait qu'un air tiédasse. Alice se frotta les mains pour les réchauffer et les emmitoufla dans les manches de son pull. Elle avait allumé le plafonnier et tenait la carte routière dépliée sur ses genoux. Penchée vers l'avant, le visage sombre, Gabrielle conduisait, les mains agrippées au volant. Depuis l'appel de Seymour, ils avaient roulé environ 3 heures, montant toujours plus haut vers le nord. Après un si long trajet, l'inconfort de la Shelby commençait à se faire douloureusement sentir. Assise très basse, suspension préhistorique, chauffage défectueux. Concentrée sur la route, Gabrielle négocia un virage en tête d'épingle et accéléra pour propulser la voiture sur la route escarpée qui serpentait entre les gorges des montagnes blanches. Il n'avait pas croisé une voiture depuis des kilomètres. L'endroit était désert. Autour d'eux, la nature s'imposait dans toute sa puissance. La forêt était noire, menaçante, sans nuance. La palette de couleurs automnales avait laissé la place à une teinte monolithique, tout en ombre, à la noirceur abyssale. Au détour des lacets, ils apercevaient parfois la vallée noyée dans le brouillard, ainsi qu'une cascade en gradin, dont les chutes d'eau dessinaient des paliers argentés dans la roche. Cernée par la fatigue et le manque de sommeil, Alice ressassait ce que Seymour leur avait révélé. Non seulement Vaughn n'était pas mort, mais il était actif. 10 jours plus tôt, il avait assassiné une infirmière, ici, en Nouvelle-Angleterre. Et quelque temps après, il était revenu en France pour tuer de nouveau et déposer le cadavre dans l'ancienne usine sucrière. Vaughn n'agissait pas seul. Alice en était certaine. Sa rencontre avec Gabriel n'était pas le fait du hasard. Vaughn les avait réunis tous les deux pour les provoquer et les mettre au défi. Sauf que cette mise en scène macabre ne pouvait être l'œuvre d'un individu isolé. Matériellement et logistiquement, un seul homme était incapable d'orchestrer un tel puzzle. Alice se frotta les paupières. Elle n'avait plus les idées claires, son cerveau tournait au ralenti. Une interrogation la tourmentait pourtant. Pourquoi son père lui avait-il menti sur la mort de Vaughn? Elle se frictionna les épaules et essuya la buée qui s'accumulait contre la vitre. Le paysage lugubre déteignait sur elle. Elle avait la peur au ventre, et seule la présence de Gabriel la retenait maintenant de céder à la panique. Ils parcoururent encore une 15aine de kilomètres avant d'arriver devant une bordure en rondin de bois qui ouvrait une traverse dans la forêt. « C'est là !» lança Alice en levant les yeux de la carte. Le coupé vira à gauche et s'enfonça dans un chemin forestier bordé de sapins. Après une 100aine de mètres, le passage devint plus étroit, comme si les arbres faisaient corps pour repousser les 2 intrus. Le couple s'enfonça dans le tunnel de végétation. Les aiguilles rayaient la carrosserie de la Mustang, des branches frappaient les vitres des portières, le sol devenait plus instable. Imperceptiblement, les conifères se refermaient sur eux. Soudain, venue de nulle part, une masse sombre déboula devant la voiture. Alice hurla, Gabriel écrasa la pédale de frein et braqua le volant de toutes ses forces pour éviter l'obstacle. La Shelby ripa contre le tronc d'un sapin qui arracha un rétroviseur, fit exploser l'une des vitres arrière et disjoncter le plafonnier. Le silence, la peur, puis un long brame. Un élan, pensa Alice en regardant s'éloigner la silhouette d'un grand animal à la haute ramure en forme d'éventail. Rien de cassé ? Vérifia Gabriel. Ça va, affirma Alice. Et vous ?
Je survivrai, assura-t-il en remettant le contact.
Ils parcoururent 500 mètres jusqu'à déboucher sur une clairière qui ceinturait un corps de ferme. Ils garèrent la Shelby à proximité de l'habitation et éteignirent leur phare. La lumière de la lune était suffisante pour distinguer la fermette. C'était une construction rectangulaire, tapissée de panneaux de bois
et coiffée d'un toit à deux versants revêtu de bardeaux de cèdre. Deux lucarnes percées dans les combles semblaient les observer d'un regard méfiant. Les volets n'étaient pas fermés et l'obscurité à l'intérieur était totale. « Il n'y a personne, » constata Gabriel. « Où on veut nous le faire croire, » nuança Alice. Elle boucla les deux lanières de sa besace et la tendit à Gabriel. « Prenez ça, » ordonna-t-elle pendant qu'elle récupérait le flingue dans la boîte à gants. Elle dégaina le Glock du holster, vérifia la culasse, leva le cran de sûreté et posa son doigt sur la queue de détente. « Vous ne comptez tout de même pas y aller à découvert ?» demanda Gabriel. « Vous voyez une autre solution ?»« On va se faire canarder. » »« Si Vaughn avait voulu nous tuer, il l'aurait fait depuis longtemps. » Ils sortirent dans le froid et s'avancèrent vers la maison. De la buée s'échappait de leurs lèvres, dessinant des volutes argentées qui s'évaporaient dans la nuit. Ils s'arrêtèrent devant une boîte aux lettres traditionnelle, recouverte d'une couche de peinture écaillée. « Caleb, Dunn. » Le nom gravé au fer à souder ne laissait aucun doute sur l'identité de son propriétaire. « Au moins, on ne s'est pas trompé de baraque, » dit Gabriel en ouvrant la boîte. Elle était vide. Quelqu'un avait relevé le courrier récemment. Ils continuèrent jusqu'à la véranda, où ils trouvèrent un journal. « Le USA Today du jour, » observa Gabriel après avoir déchiré le film plastique de protection. Il posa l'exemplaire sur un vieux fauteuil à bascule. « Dunn n'est donc pas rentré chez lui, » déduisit Alice en jetant un coup d'œil au quotidien. Gabriel se plaça devant l'entrée et sembla hésiter. « D'un point de vue juridique, on n'a aucune raison valable de se trouver ici. Dunn n'est officiellement suspecté de rien. On n'a pas de mandat, pas de... » « Et donc ?» s'impatienta Alice. « Donc, si on pouvait pénétrer dans la baraque sans défoncer la porte ?» La flic rengaina son arme et s'agenouilla devant la serrure. « Passez-moi mon sac. » Elle fouilla dans la besace pour en sortir une grande enveloppe Kraft, pliée en deux, qui contenait les radiographies de son thorax, faites un peu plus tôt à Greenfield. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda Gabriel en apercevant les clichés d'imagerie médicale. « Je vous expliquerai plus tard, Kane. On parie que la porte est seulement claquée ? On ne doit pas trop se méfier des voleurs dans le coin. » Alice inséra la feuille rigide entre la porte et le cadre et la poussa plusieurs fois. Sans succès. Laissez tomber, Schaeffer, on n'est pas dans un film, le verrou est fermé. Mais Alice insista, remontant la radiographie tout en secouant la porte, lui donnant des petits coups de pied vers le haut, jusqu'à ce que Le Pen fasse un demi-tour et libère l'ouverture de la porte. Elle lança un regard victorieux à Gabriel et dégaina son Glock. Puis, les deux flics pénétrèrent dans la ferme. Première évidence, la maison était chauffée. Première déduction, lorsqu'il a quitté sa piole, Dunn comptait y revenir rapidement. Gabriel actionna l'interrupteur. L'intérieur était simple, une sorte de grande cabane de chasseur dans son jus avec son sol en vieille brique, ses murs en planches veinées et son poêle à bois. Le salon s'organisait autour d'un canapé d'angle usé jusqu'à la corde et d'une monumentale cheminée de pierre au-dessus de laquelle trônait une tête de chevreuil naturalisée. Quatre armes étaient rangées en évidence dans leur atelier. Des pétoirs pour tirer les tourterelles ou les perdrix, indiqua Gabriel. Rien d'autre. Seule concession à la modernité, des fanions des Red Sox, un écran HD, une console de jeu, un ordinateur portable et une petite imprimante posée sur une table en bois brut. Ils passèrent dans la cuisine. Même topo. Mur légèrement défraîchi, cuisinière en fonte, série de vieilles casseroles en cuivre. Ils montèrent à l'étage et découvrirent un couloir qui desservait trois petites chambres austères et presque vides. De retour au rez-de-chaussée, les deux enquêteurs ouvrirent les armoires et les tiroirs, fouillèrent les étagères, retournèrent les coussins et le plaid en tartan du canapé. Rien, hormis un peu de shit planqué dans un compotier. Difficile de croire que ce chalet était le repère d'un tueur en série. Bizarre qu'il n'y ait pas la moindre photo personnelle, nota Gabriel. Alice s'assit devant l'ordinateur portable et ouvrit la machine. Pas de mot de passe, pas de logiciel de photo. Un historique web expurgé, un logiciel de messagerie non configuré. Une véritable coquille vide. Alice prit le temps de la réflexion. Elle conclut que Don devait envoyer ses mails en passant par le site de son fournisseur d'accès. Elle s'y connecta. C'était le seul site renseigné dans les favoris. Mais n'y trouva que les factures mensuelles, des spams et des publicités. De son côté, Gabriel continuait la fouille. Dans un placard de la cuisine, il trouva une bâche en plastique et un rouleau de Chatterton qu'il mit de côté pour colmater la vitre brisée de la Shelby. Il avisa une grande fenêtre à guillotine qui donnait sur l'arrière de la forêt. Il l'ouvrit par curiosité et provoqua un courant d'air qui claqua la porte d'entrée jusque-là restée ouverte. Alice leva la tête et blêmit. D'un bond, elle se leva de sa chaise, s'approcha de l'entrée et se figea. À l'intérieur de la porte, rivées à l'aide de gros clous rouillés, trois images qu'elle gardait toujours dans son portefeuille. D'abord une photo de Paul, souriant à pleines dents, prise sur la côte amalfitaine dans les jardins perchés de Ravello. Puis un cliché d'une de ses échographies, celle du cinquième mois. Alice ferma les yeux. En une seconde surgirent dans un flash toutes les émotions qu'elle avait ressenties en découvrant son bébé à l'écran ce jour-là. Tout était déjà identifiable. La forme délicate du visage, l'ovale des yeux, les narines minuscules, les petites mains, les doigts ciselés et le bruit hypnotisant du rythme cardiaque. Papam, papam, papam. Elle ouvrit les yeux sur la troisième image. C'était sa carte tricolore de flic. Elle aussi était clouée sur la porte, mais l'auteur du forfait avait pris soin de la déchirer en deux. Papam, papam, papam. Le bruit de son propre cœur, qui pulsait dans sa poitrine, se mélangeait au souvenir des battements de celui de son fils. Soudain, la pièce tourna autour d'elle. Une vague de chaleur la submergea. Une violente envie de vomir la saisit. Elle eut à peine le temps de sentir qu'on la retenait qu'elle perdit connaissance. Le tonnerre grondait, faisant trembler les vitres. Une série d'éclairs zébra l'intérieur de la bâtisse. Alice avait rapidement repris ses esprits, mais elle était pâle comme un spectre. Gabriel se fit directif.
Ça ne sert à rien de s'éterniser dans cette baraque. Il faut qu'on retrouve Caleb Dunn, et rien ne dit qu'il repassera par ici.
Alice et Gabriel s'étaient assis de part et d'autre de la table en bois du salon, au milieu de laquelle ils avaient déplié la carte routière de la région. L'agent fédéral poursuivit son raisonnement.
Soit Dunn et Vaughn ne font qu'un, soit Dunn nous mènera à Vaughn. D'une façon ou d'une autre, cet homme détient une part importante de la vérité.
Alice acquiesça. Elle ferma les yeux pour mieux se concentrer. L'analyse ADN avait montré que le sang sur son chemisier était celui de Dunn. Donc, Dunn avait été blessé récemment, la nuit dernière ou aux premières heures de l'aube. Et sa blessure devait être suffisamment grave pour qu'il ne rentre pas chez lui. Mais où était-il à présent ? Dans une planque, sans doute. Ou dans un centre de soins, tout simplement. Comme s'il lisait dans ses pensées, Gabriel lança.
Et si Dunn se faisait soigner dans l'hôpital pour lequel il travaille ?
Téléphonons-leur pour vérifier, suggéra-t-elle en appuyant sur une touche pour activer l'ordinateur. Elle se connecta à Internet pour trouver les coordonnées du Sebago Cottage Hospital. Elle nota l'adresse, le numéro de téléphone, et essaya de repérer l'emplacement sur la carte.
C'est ici, dit-elle en pointant la rive d'un lac en forme d'ampoule électrique. À peine 60 kilomètres.
Gabriel nuança.
Le temps de redescendre, il y a au moins 2 heures de route.
Appelons la direction de l'hôpital et demandons-leur s'ils hébergent Dunn.
Il secoua la tête.
Ils ne nous diront rien par téléphone. Ils risquent même d'alerter Dunn.
On y va à l'aveugle alors ?
Peut-être pas. J'ai une autre idée. Passez-moi votre appareil.
Gabriel composa le numéro de l'hôpital, tomba sur le standard, mais au lieu de chercher à parler à un membre de la direction, il demanda à être mis en relation avec le poste de gardiennage.
« Sécurité, j'écoute !»
annonça une voix nonchalante qui cadrait mal avec la fonction.
« Bonsoir, je suis un ami de Caleb Dunn. Il m'a dit que je pourrais le joindre à ce numéro. Pourrais-je lui parler ?»«
Ah, bah ça va être difficile, mon gars. À ce qui paraît, le Caleb s'est pris une bastose dans le beefsteak. Il est bien ici, mais de l'autre côté de la barrière, si vous voyez ce que je veux dire. »«
Dunn est ici, au Sebago Cottage Hospital ?»«
C'est ce que la patronne m'a dit, en tout cas. »«
La patronne ?»
Catherine Kohler, la directrice adjointe de l'hôpital.
Et on sait qui lui a tiré dessus ?
Pas la moindre idée. Il n'aime pas trop qu'on pose des questions ici, savez.
Gabriel remercia le vigile et raccrocha. On fonce, dit Alice. Cette fois, on le tient. Elle allait refermer le capot de l'ordinateur lorsqu'elle suspendit son geste. Juste une minute. Elle profita de l'accès à Internet pour vérifier ses mails. Il s'était écoulé plus de 5 heures depuis son coup de fil à Franck Maréchal, le commissaire de la direction régionale de la police des transports. Peut-être avait-il trouvé les images de sa voiture sur les caméras de surveillance du parking de la rue Franklin Roosevelt. À vrai dire, sur ce coup-là, elle ne croyait guère en la diligence de Maréchal. Mais elle se trompait. Un mail l'attendait dans sa boîte. De Franck Maréchal à Alice Schaeffer. Objet, surveillance Vinci FDR. Salut Alice. Voici les images des caméras de surveillance correspondant à la plaque d'immatriculation que tu m'as donnée. Je n'ai pas pu compresser le fichier vidéo qui restait trop lourd pour être envoyé par mail, mais je t'ai fait des captures d'écran. J'espère que ça te suffira. Bise, Franck. 4 photos suivaient en pièces jointes. Alice scruta l'écran de plus près. 20h12. 2 clichés montraient l'entrée de l'Audi dans le parking. La qualité de la captation n'était pas aussi mauvaise que ce que Seymour avait prétendu. À travers le pare-brise, Alice distingua très bien son visage et le fait qu'elle était seule. 0h17. 2 autres photos témoignaient de la sortie de l'Audi. Cette fois, visiblement, Alice était accompagnée. Et ce n'est plus elle qui conduisait. D'après les images, elle semblait effondrée, presque inconsciente, côté passager. Un homme avait pris le volant. Si on ne voyait pas le visage sur le premier cliché, il avait la tête relevée sur le deuxième. Alice ouvrit la photo en plein écran et zooma grâce au pavé tactile. Son sang se glaça dans ses veines. Aucun doute n'était permis. L'homme au volant de l'Audi, c'était Seymour.